Messieurs les pasteurs, Monsieur le secrétaire général, Mesdames, Messieurs, je suis très honoré de prendre la parole dans ce temple. Je parle souvent dans des lieux de culte, puisque j'ai longtemps été conservateur en chef, directeur du musée dauphinois, et que vous le savez, nous avons cette très belle chapelle baroque. Mais je n'ai pas coutume de parler dans des temples. Cela me trouble un peu. Je suis surtout heureux d'être associé à cet hommage et de participer à cette seconde journée d'un très beau colloque. Hier, ce fut une journée très riche pour de la vie de tous, et de pouvoir effectivement parler de Pierre Bol. Personnellement, j'étais absent lors des obsèques, et donc j'étais très malheureux de ne pouvoir m'associer et l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure, et je suis heureux de pouvoir rattraper aujourd'hui cette dette. De la même manière que je suis heureux, plus largement, au-delà de l'hommage cordial que nous rendons à Pierre Bol, de lever la dette du musée dauphinois et du musée de la résistance et de la déportation de l'Isère. Je parle au nom d'Olivier Cohn qui est dans la salle et évidemment de son prédécesseur Jean-Claude Duclos. Pierre Bol est avant tout un chercheur. Patrick va en parler tout à l'heure, un historien de talent, et il en parlera bien mieux que moi. Et je ne dirais pas qu'il est muséographe, comme on le dit dans le programme, le terme est trop technique. Ce n'est pas un technicien. C'est un homme de musée au sens plein du terme, un conservateur, on peut dire. Et c'est de cela que je voudrais parler plutôt que des techniques attachées à la scénographie. Il savait, et c'est en cela, je crois, qu'on reconnaît un homme de musée, un conservateur, reconnaître les objets et documents capables de porter des témoignages, capables de rendre compte devant le public de faits historiques, de moments, de mouvements, de pensées, etc. Et il le faisait particulièrement bien jusque dans la transmission au public. Il ne s'agit pas de constituer des collections, faire un musée, c'est aussi en parler au public. C'est dans cela, je crois, qu'il était particulièrement efficace. Le premier musée à évoquer quand on parle de Pierre Bol, c'est bien évidemment Poète Laval, le musée du protestantisme dauphinois, qui n'est pas seulement dromois, qui est bien dauphinois, qui évoque les hautes vallées des Hautes Alpes, le Trièves, et évidemment la Drôme, le Diois, etc. Il connaissait parfaitement cette histoire et avait trouvé tous les documents qui lui permettaient de l'évoquer. Il m'a fait venir à plusieurs reprises à Poët-Laval. Je me demande si mon prédécesseur Jean-Pierre Laurent n'avait pas été déjà à l'époque faire le voyage de Poët-Laval avec lui. On lui donnait des avis, des conseils, alors pour le coup très techniques, et lui nous parlait de ses projets d'exposition, etc. Au musée dauphinois, il était très présent, venant très souvent et forçant volontiers ma porte, puisque mon assistante à l'époque, qui s'appelle Brigitte Guérouache, était une de ses étudiantes et l'aimait beaucoup. Donc quand il appelait, elle venait me dire « il faut le voir, il vient tout de suite, il vient dans un moment ». Donc je le voyais très souvent, il voyait aussi Jean-Claude Duclos très souvent, et il a collaboré à de très nombreuses reprises comme conseiller scientifique. N'oubliez pas que les musées sont aujourd'hui devenus des lieux dans lesquels l'activité culturelle est de plus en plus abondante et que les conservateurs ne peuvent plus être des chercheurs, n'ont plus le temps d'être des chercheurs. Donc ils se replient sur les universitaires, les chercheurs, pour leur demander de venir concourir à leurs travaux. Nombre d'entre eux sont ici, j'ai vu Pierrette Paravis, j'en ai vu d'autres qui sont régulièrement invités, Stéphane Gall puisqu'il est là, sont invités régulièrement à venir collaborer, et Pierre Bol était conseiller scientifique de nombreuses expositions. Je parle vite parce que monsieur le secrétaire général m'a dit que je n'aurais pas une minute de plus. L'une des premières expositions pour lesquelles j'ai collaboré avec Pierre Bol, je suis sûr que beaucoup l'ont oublié, elle était consacrée au général de Gaulle dans les locaux de la bibliothèque municipale de Grenoble. Personne. C'était en 90, puisque c'était pour le 100e anniversaire de la naissance du général et le 20e anniversaire de sa mort. Je ne me rappelle plus exactement le titre, mais un ouvrage demeure qu'a dirigé Pierre Bol. Mais après le nombre d'expos, je n'ai pas pu les lister toutes, auxquelles il a travaillé au musée dauphinois, depuis les années noires, Restez libre, Les millénaires de Dieu, De pain et d'espérance, c'est un peu dans le désordre, pardonnez-moi. Je crois que nous avons reçu aussi à sa demande une expo sur le 400e anniversaire de l'édit de Nantes, qui était une expo itinérante qui était, je crois, promue par la Société d'histoire du protestantisme français et que nous avons reçue dans le cloître, si je me souviens bien. De la même manière qu'il avait collaboré à une autre expo qui s'appelait Retour en Queyras, dont je ne sais pas si elle a été présentée à Mont-Dauphin. Enfin, elle a été présentée dans les Hautes-Alpes, j'y suis allé, je me souviens. Donc cela fait déjà beaucoup de collaborations. Mais au Musée de la Résistance et de la Déportation, tout juste à côté, que représente Olivier parmi nous, il était encore plus présent. Il était président du conseil scientifique du musée et ce fut très précieux pour Jean-Claude Duclos. Parce qu'à l'époque, le conseil scientifique était composé beaucoup d'anciens résistants, coalisés dans différentes associations, aucune n'étant d'accord avec l'autre. Et il fallait toute l'autorité scientifique et morale et la voix de Pierre Boll pour garantir un peu de tenue à ses travaux et pour pouvoir avancer. Donc il a été très précieux. Il m'a conduit à m'y aller, bien évidemment. Il m'a conduit à un colloque de la Société d'histoire et du protestantisme français, dont je n'ai pas retenu le titre, mais j'ai retenu le titre de mon intervention, puisque j'avais parlé des musées d'histoire et de la tradition religieuse, et j'ai retrouvé le texte que vous avez publié dans la revue de la Société. J'étais venu à la demande de Pierre et de Christiane Marandais. Christiane Marandais, que je connaissais bien, était à l'époque en inspection générale des musées de France au ministère de la Culture. Et je me souviens avoir passé quelques moments devant toute cette assemblée d'historiens du protestantisme à me demander avec eux pourquoi ils avaient tant besoin de musées après avoir passé toute une histoire à refuser les objets d'art, les objets pieux, les objets de valeur. Et aujourd'hui, ils veulent tous des musées. Bon. Voilà. Et puis enfin, je vais très vite, dernier épisode, son frère Christian, qui est parmi nous, est arrivé un jour avec Pierre et tout un groupe de Genevois dans mon bureau, et nous avons passé de longues heures à visiter le musée dauphinois et à discuter des principes, il est là Christian Boll, des principes, il y avait M. Fatio, le fondateur du musée, et nous avons longuement réfléchi, et après ils ont fait ce beau musée, aux prémices, aux principes, aux concepts du Musée international de la réforme de Genève qui a vu le jour après et qui est magnifique et dont pour lequel je suis un peu inquiet en apprenant que la directrice Isabelle Grasselet vient de démissionner un peu rapidement alors que nous sommes à peine à un an de la célébration du 5e centenaire de la réforme. Je ne vais pas parler du travail à l'extérieur, mais quand même, comment pourrais-je oublier qu'il a été des fondateurs des itinéraires protestants. Il a été parmi les premiers, il est venu me présenter cette histoire qui était fort complexe du point de vue administratif, parce que c'était un programme leader, je crois, c'est-à-dire un programme européen qu'il fallait remplir des dossiers énormes. Mais enfin, il m'a beaucoup parlé de cette histoire et nous avons longuement évoqué la manière dont on pourrait parsemer ce parcours de centres d'interprétation pour qu'il soit effectivement fécond. Voilà, je terminerai en disant qu'il a aussi travaillé avec nous sur le réseau des musées isérois que nous coordonnions à l'époque, et notamment sur le musée du Trièves, même si... quand nous avons fait le musée du Trièves, la question religieuse a été abordée que très ponctuellement, pas autant que nous le souhaitions, à la demande des associations locales. Mais depuis, ils se sont repris et ils ont fait une grande expo qui est actuellement présentée, ou peut-être a-t-elle été démontée, je ne sais pas, sur le fait religieux en Trièves qui traite de cette question. Mais là, effectivement, Pierre n'était plus là pour les conseiller. Je sors un peu des musées, mais je ne peux pas ne pas rappeler qu'il a donné à la collection que je dirige au Dauphiné Libéré, qui est une collection de petits fascicules très, très diffusés, un ouvrage qui s'appelle « Protestant en Dauphiné, l'aventure de la réforme », qui s'est vendu par milliers d'exemplaires, là, pour le coup. Ce n'est pas comme les publications des musées que nous éditons avec soin, mais que nous rangeons souvent en palette dans nos caves. Le Dauphiné Libéré, quand il tire un ouvrage de cette petite collection, le vend dans les stations-service, dans les grands magasins, et là, c'est 10 000, 20 000 exemplaires souvent. Et puis, il est venu me voir en janvier 2005 pour publier Mouston. Et je n'ai pas pu, évidemment, il a disparu trop tôt, et puis c'était très compliqué, et puis il a rencontré d'autres éditeurs qui n'étaient pas très clairs, je veux dire les choses ça simplement, et donc j'étais un peu malheureux de ne pas avoir tenu mon engagement avec Pierre de publier le journal d'Alexis Mouston. Et Patrick Cabanel est arrivé, il a sauvé la situation, il vous en a parlé hier longuement, avec les histoires d'amour d'Alexis Mouston. Si vous étiez là, ce fut un beau moment. Et donc, il m'a dit que j'allais publier le Walden, l'ouvrage de Thoreau, du Dauphiné, et que les éditions allaient gagner beaucoup d'argent avec cet ouvrage. En tout cas, je suis heureux pour cet ouvrage de voir que la demande de Pierre Boll va être remplie. Il y en avait un autre ouvrage qu'il voulait faire et que je n'ai pas réussi à faire, et que ceux qui le connaissent vont reconnaître, c'est Félix Jourdan. Il en a parlé de Félix Jourdan. Hein. Et pour Félix Jourdan, il l'a connu et il l'a enregistré longuement. Il avait des dizaines de cassettes qui doivent être aujourd'hui dans la phonothèque du musée dauphinois, je pense. Donc voilà, cet ouvrage, je ne sais pas s'il se fera, c'est moins important qu'Alexis Mouston. Mais il était passionné par l'itinéraire de cette personnalité, qui par ailleurs était liée aussi au fondateur du musée dauphinois, Hippolyte Müller. Au total, et je termine là-dessus, il y a un aspect des choses qu'on n'a pas traité hier et aujourd'hui, et que je ne saurais pas traiter, mais que je vais évoquer, c'est le citoyen engagé. Et le citoyen engagé, dont j'aimais particulièrement quand il me racontait, dans les années 60, comment autour du préfet de l'Isère, un certain préfet Doublé, qui a joué un rôle très important dans la réussite des Jeux Olympiques de Grenoble, il paraît que s'il n'avait pas été là, je n'étais pas sûr qu'on arrive à finir à temps, et donc il faisait partie d'un club d'universitaires, ils étaient une petite dizaine, que le préfet Doublé réunissait une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines, pour prendre l'état de la situation, pour discuter avec des intellectuels de cette ville, de son devenir, etc. Je crois que c'est une chose qui n'existe plus. Ni les hommes politiques, ni les grands administrateurs n'ont besoin de discuter avec des universitaires pour prendre des décisions. Voilà, mais je retiens tout cela. Je retiens surtout l'historien, le muséologue, mais il ne l'était pas pour lui-même, il l'était pour vivre dans son temps, pour que tous ensemble nous vivions mieux dans notre temps. Et c'est par ces mots que je voudrais terminer l'hommage que je voulais rendre à Pierre Boll. Merci.